profitez en plus de 10% de tickets Leclerc sur tous les fruits et légumes à activer sur votre appli Mon Leclerc. Chez Leclerc, le goût du frais, ça se défend tous les jours. Catégorie 1, calibre 45-50 mm, modalité et magasin participant sur www.e.leclerc.
Oui, toutes les nuits, c'est le même scénario. Les Israéliens sont réveillés. Oh,
vous écoutez Europe 1, il est 13h.
Europe 1, 13h.
13h, 14h.
Céline Géraud.
Bonjour à tous et merci d'écouter Europe 1 pour vous informer à la mi-journée. Au sommaire, la guerre Israël-Iran, c'est l'escalade. Quatrième nuit de frappe, le bilan ne cesse de s'alourdir dans l'État hébreu où les familles vivent dans la terreur. C'est une information Europe 1, Gabriel Attal menacé d'une fatwa par un imam de Massy, en Essonne. Et puis nous reviendrons aussi sur ce match de football avec des enfants de 9 ans qui a viré en bagarre générale au sud de Toulouse. Enfin le bac, top départ ce matin avec l'épreuve de philosophie. Alors sur quel sujet les 530 000 lycéens ont-ils planché? Europe 1 vous dit tout à la fin de ce journal. La tendance météo, Géraldine Hamon, c'est un temps calme.
Et oui, soleil et température en hausse, c'est le programme de votre lundi après-midi. Il fera 24 à 28 degrés, 29 à 32 degrés sur la Corse et le pourtour méditerranéen, jusqu'à 35 degrés localement dans le Var. Météo complète sur Europe 1 à la fin de ce journal.
Europe 1.
C'est donc un conflit qui s'intensifie et cela fait 4 jours qu'Israël vit au rythme des tirs de missiles iraniens. Frédéric Simon, vous êtes le correspondant européen en Israël. La nuit dernière a été particulièrement meurtrière pour l'État hébreu qui dénombre 8 victimes.
Oui, le bilan de l'attaque des missiles survenue aux alentours de 4h du matin, heure locale, s'élève désormais en effet à 8 tués. Des missiles se sont abattus sur des immeubles d'habitation dans les environs de Tel Aviv et sur la ville portuaire de Haïfa, dans le nord du pays. En tout, on dénombre près de 300 blessés, parmi lesquels certains dans un état grave. C'est donc la population civile qui est visée par l'Iran. En réponse, le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, menace les habitants de Téhéran, a-t-il déclaré ce matin, en paieront bientôt le prix. Selon les généraux de Tzahal, l'aviation israélienne dispose désormais d'une totale liberté de manœuvre au-dessus de la capitale iranienne, la défense antiaérienne iranienne ayant été presque entièrement éradiquée. Les avions de chasse israéliens seraient parvenus en outre à détruire un tiers des rampes de lancement de missiles iraniens, l'une des pièces maîtresses de l'effort de guerre du régime des Mollahs.
Merci Frédéric Simon en direct de Tel Aviv pour Europe 1. Et depuis le début de ces échanges de tirs, jeudi, les Israéliens vivent dans la peur permanente au rythme des alertes et des allers-retours vers les abris. Pour Europe 1, Charles Bouchin a recueilli le témoignage de Sarah. C'est la maman de trois très jeunes enfants.
Oui, toutes les nuits, c'est le même scénario. Les Israéliens sont réveillés par des alertes assourdissantes sur leur téléphone, leur indiquant une attaque iranienne. Shana a 27 ans et habite à Tel Aviv.
On va dormir avec une sensation bizarre, sachant qu'on va être réveillé sans vouloir et avoir besoin de réagir très très vite.
Cette franco-israélienne vit dans un immeuble ancien qui ne possède pas d'abri. Elle se réfugie alors au sous-sol d'un centre commercial en face de chez elle, aux côtés d'une centaine de personnes.
Ils ont ramené du centre commercial quelques coussins, des choses pour qu'on puisse s'asseoir facilement et on se pose dans la salle et on tient la main de nos proches. Le cœur y bat très fort pendant ces moments.
Et au sud de Tel Aviv, à Bat Yam, ville frappée par l'Iran, Océane vit-elle dans un appartement équipé d'une chambre sécurisée en béton armé. Elle y a installé les 2 lits de ses filles.
Dans la pièce forte, on a mis de quoi tenir, de l'eau, à manger, des biberons, des couches, etc. Voilà, si on venait à devoir rester plusieurs heures, on a de quoi tenir.
Et les frappes ne se concentrent plus seulement la nuit. Pour la première fois depuis la riposte iranienne, les sirènes d'alerte ont retenti hier à Tel Aviv en pleine journée.
Et dans ce contexte géopolitique instable, se réunit aujourd'hui le G7 au Canada, l'occasion pour la France de faire entendre sa voix, avec un Emmanuel Macron très critique sur l'offensive de Donald Trump sur le Groenland, mais pragmatique sur son pouvoir de persuasion de ramener le calme au Proche-Orient, Jacques Serret.
Emmanuel Macron espère que ce G7 va faire bouger les lignes.
Personne ne souhaite voir l'Iran se doter de l'arme nucléaire, mais tout le monde souhaite que la discussion et la négociation reprennent.
Mais en dehors de ces multiples échanges téléphonique.
Et j'ai pu m'exprimer et échanger avec le Premier ministre Netanyahou, le président Pezeshkian, président iranien hier, et le président Trump.
Le président s'en remet à la puissance américaine.
Les États-Unis d'Amérique ont une vraie capacité à faire revenir tout le monde autour de la table, compte tenu du fait que la dépendance israélienne à l'égard des armes et des munitions américaines leur donne une capacité à négocier.
Tout en prenant ses distances avec Donald Trump, ouvert à une médiation menée par Vladimir Poutine.
Je ne crois pas que la Russie, qui aujourd'hui est engagée dans un conflit de haute intensité, a décidé de ne pas respecter la Charte des Nations Unies, puisse être en quoi que ce soit un médiateur.
Une divergence qui est loin d'être la seule. Ces dernières semaines, la Maison-Blanche n'a pas du tout apprécié la volonté d'Emmanuel Macron de reconnaître l'État de Palestine.
Et conséquence, depuis les premiers bombardements israéliens, le cours du baril de Brent s'est envolé de plus de 10%, passant la barre des 74$. Et plus inquiétant encore, Barthélémy Philippe, le régime iranien menace désormais de bloquer le détroit d'Ormuz, ce qui serait un cauchemar pour l'économie mondiale.
Oui Céline, car c'est par le détroit d'Ormuz que transite près d'un tiers des exportations mondiales de pétrole et un quart du gaz naturel liquéfié. Les yeux du monde sont donc braqués sur Ormuz, d'autant que Téhéran menace de fermer le détroit. L'Europe est très exposée, ses importations de gaz et de pétrole dépendent en partie de l'Arabie Saoudite, des Émirats et du Qatar, trois géants des hydrocarbures dont les exportations transitent par Ormuz. En cas de blocus, le cours du baril de Brent pourrait dépasser 100$, les coûts de l'énergie s'envoleraient avec une flambée du prix à la pompe et le retour de l'inflation. Pour autant, il est assez peu probable que l'Iran mette sa menace à exécution, selon l'économiste Philippe Chalmin.
Il y a quand même une flotte américaine dans le golfe arabo-persique. Ils peuvent être amenés à intervenir. Il y a le facteur chinois. C'est la Chine, la seule capacité de respiration financière de l'Iran. L'Iran exporte 1,5 million de barils jour à 80% vers la Chine. Ça représente quand même une grosse partie du budget iranien. La Chine y mettrait son veto, car elle n'a aucun intérêt à voir les prix du pétrole, du gaz flamber.
Les Mollahs ont donc énormément à perdre en tentant de bloquer le détroit d'Ormuz. Ils ne l'ont d'ailleurs jamais fait depuis leur accession au pouvoir en 1977. Et ils n'abattront sans doute cette carte qu'en dernière extrémité s'ils sentent que la survie du régime est en jeu.
Merci Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1. Et dans cette escalade militaire, le drone de combat est devenu une arme incontournable. Il sera d'ailleurs la star du Salon du Bourget qui s'ouvre aujourd'hui. 2400 exposants, dont l'avionneur Dassault qui va présenter aujourd'hui son drone du futur. William Molinier l'a vu pour vous en avant-première.
Sa forme triangulaire et aplatie ne fait pas de doute. Il s'agit bien là d'un drone de combat furtif, une sorte d'aile volante capable de transpercer les lignes de défense antiaérienne de plus en plus performantes. Cet aéronef doit voir le jour en 2035. Il sera associé au Rafale, l'avion de chasse emblématique du groupe Dassault. Et c'est d'ailleurs depuis un Rafale biplace qu'il sera commandé par le copilote et assisté par l'intelligence artificielle. Ce drone du futur ouvrira la route, fera diversion ou bien fixera les batteries solaires ennemies. Dans sa soute intégrée, il sera armé et pourra détruire par exemple un radar pour la première fois au Salon du Bourget. Une maquette à taille réelle sera dévoilée. Les visiteurs ont déjà pu voir voler son précurseur en 2012, le Neurone. Mais là, ce drone de combat du futur est beaucoup plus massif, de la taille d'un Mirage 2000. Il préfigure ce que sera la guerre du ciel de demain. Un combat collaboratif mêlant avions de chasse et drones furtifs engagés pour remporter la suprématie des airs.
Il est 13h08 sur Europe 1. La suite du journal de Céline Géraud avec cette nouvelle affaire de violence, Céline, dans le foot amateur, cette fois en Haute-Garonne.
Oui, c'est affolant. Une bagarre générale a éclaté hier lors d'un tournoi avec des gamins de 9 ans seulement. Frontignan, dans l'Hérault, qui jouait sur la pelouse de Tournefeuille, c'est au sud de Toulouse. Alexis Bourdon, deux hommes ont été blessés, dont un éducateur.
Oui, tout est parti d'une simple célébration entre un père et son fils après un pénalty arrêté. À la fin du match, un éducateur du club de la banlieue toulousaine s'est empressé de féliciter son garçon, auteur de l'arrêt décisif. De là, des chamailleries entre joueurs éclatent et selon l'éducateur victime de l'agression, c'est en séparant les enfants que des accompagnateurs du club adverse ont vu rouge.
Trois parents n'ont pas supporté le fait que je réagisse. J'ai eu une personne en face de moi qui a fait une tentative de coup de tête que j'ai pu maîtriser. Une personne m'a prise par derrière, m'a fait une clé d'étranglement. Je me suis retrouvé jeté au sol. Et une fois au sol, ces trois individus en ont profité pour me rouer le coup.
En réaction, des parents du club toulousain sont eux aussi entrés sur la pelouse, engendrant une bagarre générale. L'un des hommes qui a tenté de s'en prendre à l'éducateur toulousain a lourdement été blessé. Les pompiers ont dû intervenir pour l'extraire du terrain. Contacté, le club de Frontignan assure que cet individu n'est pas le parent d'un des jeunes joueurs. Pire, l'éducateur qui a inscrit son équipe au tournoi sans prévenir la direction ne faisait plus partie du club depuis une dizaine de jours.
Alexis Bourdon à Toulouse pour Europe 1 à 13h09. C'est une information Europe 1. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a déposé une plainte contre Noureddine Aoussat, l'imam de la mosquée de Massy, c'est dans l'Essonne, et ce suite à une publication d'une vidéo dans laquelle il menace de lancer une fatwa, c'est-à-dire une condamnation qui peut aller jusqu'à la mort, à l'encontre de l'ancien Premier ministre Gabriel Attal, Jean-Baptiste Marty.
Oui, dans cette vidéo tournée sur son portable, l'imam s'en prend directement à l'ancien Premier ministre et le menace.
Mon propos s'adresse à Gabriel Attal. Vous nous poussez à une fatwa, un avis religieux qui n'a jamais été pris par aucun imam depuis ces 25 dernières années.
Le tort de Gabriel Attal, vouloir interdire le voile pour les moins de 15 ans dans la rue. Pour cet imam, l'État n'a pas le droit de s'attaquer à un vêtement religieux, des propos qui pourraient entrer sous le coup de la loi sur le séparatisme.
L'État n'a pas à dicter de règles ou de lois qui concernent la foi et la religion. Tout comme les religions n'ont pas à dicter de règles ou de lois à l'État.
Pourtant, cet imam qui se présente comme libre se mêle bien de politique. À ses yeux, Gabriel Attal, je cite, fourre son nez dans une surenchère islamophobe. Il appelle même les musulmans à se mobiliser lors des prochaines élections pour le battre dans les urnes. Gabriel Attal, au courant de ces menaces, n'a pour le moment pas engagé de poursuite judiciaire.
Jean-Baptiste Marty du service police-justice d'Europe 1. À 13h11, je vous parle maintenant de ce séisme qui secoue le CAC 40 et le secteur automobile. Luca De Meo, le patron italien de Renault, quitte le constructeur français pour rejoindre le groupe de luxe Kering, propriété de François-Henri Pinault. Brieux-Baucher, c'est un transfert inédit.
Oui, Luca De Meo quitte Renault avec le sentiment du devoir accompli, a-t-il écrit au conseil d'administration. C'est vrai que lors de son arrivée il y a 5 ans, le constructeur français était au fond du trou, plombé par la crise Covid, l'affaire Carlos Ghosn et la querelle avec Nissan. Renault avait alors enregistré une perte record de 8 milliards d'euros. Luca De Meo a réussi un redressement spectaculaire avec un résultat net de 4,3 milliards d'euros en 2024. Pour Renault, c'est donc un coup de massue, d'autant plus que le patron italien était en pleine préparation de son futur plan stratégique. Mais selon Arnaud Aimé, spécialiste des transports chez SIA Partners, au-delà du choc de l'annonce, c'est la destination qui surprend le plus, le groupe de luxe Kering.
Ce départ de Luca De Meo, c'est une vraie surprise, particulièrement pour aller dans le luxe, alors qu'il avait fait carrière tout le temps dans l'automobile, c'est ce qu'on appelle un car guy. Le déploiement de sa stratégie, il n'est pas encore terminé, cela dit, on imagine qu'il a voulu voir plus grand en testant un nouveau secteur et une autre grande entreprise.
Luca De Meo rejoint donc un groupe en grande difficulté, plombé par la dérive de la maison Gucci. Depuis le début de l'année, l'action Kering a chuté de 26%, mais l'annonce n'a pas tardé à se faire ressentir sur les marchés, une baisse de 7% pour Renault ce matin, tandis que Kering a bondi d'autant de points.
Merci pour ces précisions, Brieux-Baucher du service économie d'Europe 1.
13h12 sur Europe 1 et un stress en moins, Céline, pour les 530 000 candidats au bac.
Oui, parce que depuis une heure, ils ont bouclé la redoutable épreuve de philosophie. Dissertation ou études de texte, choix cornélien. Premières impressions à la sortie du lycée Fénelon à Lille, Maximilien Carlier.
Sourire et soulagement devant cet établissement, le moment de décompresser un peu après cette première épreuve du baccalauréat. Des petits groupes d'élèves de terminale se forment, des jeunes qui évoquent forcément leur dissertation de philosophie.
Le premier sujet, c'était notre avenir dépend-il de la technique. Et le deuxième sujet, c'était la vérité est-elle toujours convaincante. J'ai choisi le premier sujet. J'ai parlé d'impact que la technique avait sur notre environnement. Par exemple, l'IA. J'en ai parlé avec mon prof. Il m'a dit que c'était correct. Je lui ai montré mon brouillon, etc. Donc, je pense que ça devrait aller.
Soulagée, parce que du coup, on a terminé. Après, la philo, c'est quand même un plus petit coef, donc c'était quand même moins stressant. Mais ça reste quand même important. Et plutôt fière, parce que ça paraît difficile. Et en fait, quand on comprend bien le sujet et tout, ça découle tout seul. Donc, c'était bien. Moi, j'ai bien aimé.
Le programme cet après-midi, révision pour les épreuves de spécialité qui débutent demain. Épreuve importante avec un gros coefficient, le grand oral ensuite fin juin et puis bien sûr les résultats, tous les élèves ont noté la date, ça sera le 4 juillet.
Merci Maximilien Carlier à Lille pour Europe 1. Et à 13h13, on fait comme chaque jour un point sur les marchés avec vous Claire Lemaître de boursier.com. Et malgré le contexte géopolitique brûlant, le marché reste dans le vert.
Oui, le CAC 40 est en hausse, plus 0,7% malgré les tirs croisés entre Israël et l'Iran. Les marchés font donc de la résistance. Le pétrole qui était en forte hausse se stabilise. Le Brent repasse sous les 74$ le baril. La chute du jour, elle est signée par Renault, moins 7%. Le constructeur automobile Il a donc annoncé le départ de son directeur général Luca De Meo. Selon le Figaro, il deviendrait donc directeur général du groupe de luxe Kering. Rien de confirmé, mais le marché en tout cas y croit. L'action Kering s'envole de 9%. L'euro est à 1,1580 et en Europe, c'est du vert. Londres, 7,05%. Monte de 0,5%, pardon, plus 0,4 pour Francfort. Je déraille, plus 0,7 à Paris pour le CAC 40. On est à 7742 points.
C'était Claire, merci Claire, le maître de boursier.com. Et tout de suite, la météo avec vous, Géraldine Hamon, le mercure remonte.
Exactement, il fera 20 degrés à Boulogne-sur-Mer cet après-midi, 21 à Cherbourg, 23 à Caen et Brest, 24 degrés à Saint-Étienne et Strasbourg, 25 à Nancy et Metz, 26 à Lyon, 27 degrés dans la capitale, 28 degrés à Bordeaux et Pau, 29 à Nice, 30 à Marseille, 31 degrés à Bastia, jusqu'à 32 degrés à Perpignan et Montpellier. Concernant le ciel, eh bien, le temps s'est calmé grâce au retour de conditions anticycloniques sur l'Hexagone. Le temps sera largement ensoleillé sur la majorité du pays. Notez tout de même que des cumuls de beau temps bourgeonnent au nord, est et à l'est, mais l'impression de beau temps estival persistera. Un très faible risque d'ondées pourra cependant prendre un caractère orageux et présent sur la Haute-Corse et le Mercantour. Et la tramontane souffle aussi cet après-midi jusqu'à 60 km/h. Le Mistral atteint 80 km/h en rafale. Alors pour les prochains jours, il fera de plus en plus chaud avec la nouvelle vague de chaleur qui arrivera sur le pays et qui va concerner toute la France à partir de mercredi. On surveille aussi un risque de canicule sur un grand tiers sud.
Merci Géraldine Hamon. Nous restons ensemble jusqu'à 14h et dans quelques instants, on va évidemment en parler de cette guerre entre Israël et l'Iran. Après 4 jours de frappe, quelle stratégie pour l'État hébreu? Comment va se positionner la communauté internationale? Comment interpréter aussi les propos d'Emmanuel Macron? Décryptage avec Yvan Rioufol et Jean-Claude Dassy. À tout de suite.
Il est 13h16 et vous écoutez Céline Giraud sur Europe 1.
Europe 1 13h. Tout savoir sur...
Avec Fortunéo, préparer sa retraite tout en valorisant son épargne, c'est désormais possible grâce à son nouveau plan d'épargne retraite. Amandine Regissard, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes responsable des produits de placement chez Fortunéo. Un PER, c'est quoi exactement?
Alors, c'est une solution pour épargner pour la retraite et réduire ses impôts dès aujourd'hui. Mm-hmm. Chaque euro versé réduit le revenu imposable jusqu'à 10%. Et l'imposition, elle, ne s'applique qu'au moment des retraits, à la retraite notamment.
C'est donc intéressant pour les indépendants.
Et pour tous ceux qui prévoient une baisse de revenus et de fiscalité à la retraite. Donc, pas mal de monde.
Et pourquoi choisir Fortunéo?
Déjà, notre PER est accessible dès 100 euros, sans frais d'entrée ni de versement. Mmh. Et côté rendement, pour le fonds en euros en 2024, c'est 3,20% net de frais annuels de gestion, hors prélèvements fiscaux et sociaux.
Merci Amandine.
Merci.
Plus d'informations sur le contrat sur fortuneo.fr. Fiscalité en vigueur au 1er janvier 2025, susceptible d'évolution. Ce produit comporte un risque de perte en capital. Les rendements passés ne préjugent pas des rendements futurs.
Quand votre déodorant à l'agonie vous dit dans un dernier soupir « Je fais de mon mieux, mais je suis vraiment sur la faim. » Pas de panique, votre nouveau déodorant est déjà en route. Il arrive demain avec Prime. Produit du quotidien, livré en un clin d'œil, c'est sur Prime. Sous réserve du respect des heures limites de commande.
Avec Mondial Piscine, chez nous, il y a un endroit pas comme les autres. Un endroit où l'on joue, où l'on rit, où l'on profite des belles journées. Où chaque moment devient un souvenir à partager. Un endroit où Mondial Piscine donne vie à nos rêves. Mondial Piscine, conçu pour durer, pensé pour partager. Rendez-vous sur le site Mondial Piscine pour trouver le professionnel le plus proche de chez vous.
Former une personne de plus de 50 ans? C'est une blague.
Mais au contraire, pour moi, c'est très sérieux. Quand j'ai formé Marc, 59 ans, à la soudure laser, j'ai su que je pourrais faire confiance à son expérience. En plus, maintenant, c'est lui qui forme les nouveaux.
Comptons sur l'expérience des 50 ans et plus. Recrutement, formation, accompagnement. Rendez-vous sur emploi50plus.gouv.fr.
Ceci est un message du gouvernement.
Leclerc, bonjour.
Allô, oui, bonjour. Je vous appelle parce que je suis inquiet.
Ah bon, mais qu'est-ce qui vous arrive?
Bah voilà, j'adore les yaourts Père de lait, alors je vous en ai pris 2 packs. Mais là, j'en bois 3 dans mon frigo. Est-ce que c'est normal?
Oui, oui, c'est normal. C'est Leclerc. Car du 17 au 28 juin, pour l'achat de 2 packs de 4 pots de perles de lait vanille, le 3e est offert.
Ah, vous m'avez rassuré.
Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Lait Origine France, modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc. Pour votre santé, évitez de grignoter.
13h, 14h.
Europe 1, 13h.
Merci de nous rejoindre sur Europe 1. Vous écoutez Céline Géraud avec vos deux chroniqueurs du jour. Céline, pour décrypter l'actualité de ce lundi 16 juin, Yvan Rioufol et Jean-Claude Dacier.
Merci les amis d'être là. Bienvenue à bord.
Merci, bonjour.
On va décrypter l'actualité.
Bonjour,
bonjour. Et alors, de quoi allons-nous parler avant 14h? Eh bien, de cette menace de fatwa par un imam de Massy en Essonne contre Gabriel Attal. Bruno Retailleau dépose plainte et poursuit son combat contre l'islam radical. Un salopard antisémite. Après les propos du député PS, Jérôme Guedj, les insoumis réclament des excuses. Ça craque de tous les côtés à gauche. On va y revenir. Mais pour commencer, au quatrième jour de guerre entre Israël et l'Iran, l'État hébreu annonce avoir frappé des centres de commandement des gardiens de la révolution à Téhéran. Les frappes se poursuivent des deux côtés. Alors, quelle est la stratégie de l'État hébreu? On va en parler, mais on va d'abord écouter Benjamin Netanyahou, premier ministre israélien, qui s'est adressé à la nation. Et dans son discours, eh bien, il a rappelé la stratégie d'Israël et la menace iranienne.
Nous sommes également conscients qu'il reste encore beaucoup à faire. Nous nous préparons donc. Nous avons préparé le terrain pour Téhéran et nos pilotes au-dessus du ciel de Téhéran porteront des coups aux régimes des ayatollahs qu'ils ne peuvent même pas imaginer. Et je peux vous dire ceci, nous avons des indications que des dirigeants iraniens de haut rang font déjà leur bagage, ils pressentent ce qui arrive. Je vais vous dire ce qui se serait produit si nous n'avions pas agi, nous avions des informations comme quoi ce régime sans scrupules prévoyait de remettre les armes nucléaires qu'il développait à ses supplétifs terroristes. C'est du terrorisme nucléaire amplifié et cela menacerait le monde entier.
Et dans la foulée, Mohammad Amin Nejad, l'ambassadeur d'Iran en France, a lui démenti la volonté iranienne d'obtenir l'arme nucléaire. C'était sur France Inter ce matin.
Pour nous, accès à la bombe atomique était hors de notre agenda, pour toujours, idéologiquement, religieusement. Même la culture iranienne n'accepte pas. Maintenant, on dit la menace. La menace vers la France? Non, nous aimons la France, les Français, nous respectons comme un partenaire, un pays culturel, historique.
Yvan Rioufol, que cherche Israël?
Alors, si vous écoutez la presse progressiste, si vous lisez Le Monde, si vous lisez Libération, Ouest France ce matin, on vous expliquera que, en fait, cette stratégie est une stratégie qui est simplement destiné à protéger Netanyahou des poursuites, des possibles poursuites judiciaires. On parle de fuite en avant, on parle de dérive, le monde parle de dérive belliciste, de vision messianique. Donc il y a toute une analyse paresseuse qui essaye de masquer ce qu'est effectivement la véritable stratégie de l'État hébreu.
Il y aurait peut-être deux tiers de la population qui serait aujourd'hui opposée à sa politique.
Oui, mais alors, on alimente tout cela. J'entendais même Mme Autain tout à l'heure de l'EFI nous dire qu'Israël était une menace pour le monde, donc avec une inversion totale des choses. Ce que cherche effectivement le Premier ministre israélien, c'est de se confronter maintenant à cet islam. Alors, cet islam politique, mais plus que cet islam politique, parce qu'il existe dans d'autres pays sans être aussi dangereux, à un islam apocalyptique, à un islam dingo, c'est-à-dire à un islam qui, s'il avait la bombe atomique, et on a appris la semaine dernière qu'il était à deux doigts de l'avoir, s'il avait la bombe atomique, effectivement, il la ferait exploser sur Israël, parce qu'il le dit depuis maintenant, près de 50 ans, que sont au pouvoir les Mollahs. Donc la stratégie que suit aujourd'hui Netanyahou n'est pas de se protéger lui-même de poursuites juridiques, c'est complètement idiot que d'oser même avancer cela, c'est effectivement de protéger son propre peuple d'une éradication, effectivement d'une sorte de génocide, dans le fond, qui a été théorisé par les Mollahs, qui attendent la venue de l'imam sacré, etc., enfin qui sont dans une vision, encore une fois, millénariste d'une fin du monde.
Jean-Claude Dacier.
Oh, écoutez, je ne suis pas sûr que la menace directe de Téhéran, de l'Iran, vis-à-vis d'Israël, était immédiate et qu'il fallait réagir et faire la guerre immédiatement. Néanmoins,
il y avait les 60 jours.
Honnêtement, néanmoins,
il y avait les 60 jours.
Moi, je prends pas le risque. Je prends pas le risque. Et je pense que, bon, même si a priori on peut faire en effet l'analyse que Netanyahou a besoin d'avoir une série de conflits qui le protège des ennuis qu'il risque d'avoir en Israël, c'est pas ça, à mon avis, l'essentiel de ce à quoi nous assistons. Je pense que, un, la disparition de la menace. Alors, si Monsieur l'ambassadeur iranien considère en effet que l'Iran n'a jamais voulu avoir la bombe atomique, je suis un peu surpris. Bon, il n'en reste pour moi que l'AIEA, qui est quand même des gens, qui est composé de gens sérieux. a dit que l'Iran ne respectait pas les engagements pris, à savoir qu'il faisait tourner les centrifugeuses à une vitesse phénoménale. Donc, il ne faut pas prendre de risques. En effet, que l'Iran ait la bombe atomique, et la guerre est la possibilité, même si ce n'était pas demain. Néanmoins, c'était une perspective. Je comprends que les Israéliens considèrent que c'est un danger pour eux qui n'est pas acceptable. Et si en outre, et c'est là où je voulais au fond en venir, si le régime des Mollahs venait à tomber, à disparaître, honnêtement, j'en ferais pas une maladie, loin s'en faut. Ben je considérerais même que c'est un progrès démocratique important. Alors, je suis pas sûr que ça suffira, nous verrons bien les résultats. Quel que soit le but de guerre de Monsieur Netanyahou, qu'il fasse la guerre à l'Iran, dans les conditions que nous connaissons, me fait pas une peine infinie.
Et ça relance. Vous reconnaissez qu'il y avait tout de même une menace nucléaire.
Je ne suis pas sûr. Non, la menace n'était probablement pas évidente. Néanmoins, on ne prend pas de risque avec ces choses-là.
Elle était évidente si on écoutait, en tout cas, les alarmes de l'agence nucléaire.
Vous ne faites pas une bombe atomique, vous ne faites pas une guerre atomique comme ça. Il faut en avoir un peu. Il faut avoir des armements. Néanmoins, encore une fois, je ne veux pas qu'il y ait de mauvaises interprétations. Même si. Oui, mais vous grossissez le trait.
On va écouter.
Je vous ai écouté. Je pense que honnêtement, si menace il y avait, il fallait réagir. Ça a été fait et c'est fait. Et si en mais prime, alors, on touche alors. La disparition du régime, alors là, je serai le plus heureux des
années. Ça fait des années qu'Israël préparait effectivement ces attaques. On va écouter Maher Manchipour, boxeur franco-iranien, qui défend ces frappes israéliennes sur l'Iran. Écoutez-le, il était l'invité de Pascal Praud ce matin sur Europe 1.
D'un côté, Israël ne frappe pas les populations. Il y a des dégâts collatéraux, mais beaucoup moins que les petits gamins, les filles violées, les femmes battues dans les manifestations contre le régime. Il y a beaucoup moins de morts civiles que lors des manifestations. Et bravo à Israël, merci à Israël de nous aider à nous débarrasser de ces criminels. Et ne dites plus l'Iran, République islamique.
Voilà, il y a beaucoup d'espoir du côté iranien. On écoute Maher Manchipour, sa parole est forte. Il dit, on pensait que ce régime dictatorial allait tenir encore longtemps. Et là, Israël ouvre un nouveau chemin. Il rappelle quand même qu'en septembre 2022, Mahsa Amini, vous savez, cette jeune femme kurde iranienne qui avait perdu la vie alors qu'elle était détenue par la police des mœurs. Il dit, en gros, ils ont plus fait en 4 jours que nous depuis tout ce temps, depuis 2 ans.
La plus belle des victoires pour Israël serait naturellement de libérer le peuple iranien, la majorité du peuple iranien qui souffre de cette dictature islamique. C'est une évidence, mais simplement l'appareil policier est tel que les gens sont tétanisés et peut-être en effet n'apprécient-ils pas non plus cette politique de l'armée israélienne qui est de vouloir maintenant bombarder des cibles militaires qui se trouvent, on a déjà vu ça à Gaza, qui se trouvent dans des agglomérations civiles. Donc cela peut également accélérer peut-être une réticence de cette population à se retrouver auprès d'Israël. Moi, je fais le pari, effectivement, que ce régime pourrait s'effondrer. Et d'ailleurs, dans ce cas-là, ils auraient bonne mine, tous ceux qui, à la France insoumise, se précipitent pour venir défendre ce totalitarisme islamique qui bafoue les femmes, enfin, qui pend les homosexuels, enfin, on connaît tout cela. Mais encore une fois, je voudrais revenir sur le contexte principal, et quand j'entends dire que c'est l'Israël qui est l'agresseur, je vous rappelle tout de même, malgré tout, que tout vient du 7 octobre 2023, où Israël a été agressé, certes par le Hamas, mais le Hamas qui était financé par l'Iran des Mollahs. Et après avoir éradiqué le Hamas, après avoir éradiqué le Hezbollah, après avoir éradiqué les terroristes du Yémen, on peut faire le pari, en effet, que Israël cherche maintenant, avec son savoir-faire, à décapiter d'abord le système nucléaire, naturellement, mais peut-être également le système politique lui-même.
On ne pourrait que
l'applaudir.
Ce que les Iraniens appelaient l'axe de résistance à l'État d'Israël, qui était largement animé, pour ne pas dire exclusivement, par eux, cet axe de la résistance est beaucoup affaibli depuis quelques années. J'ai noté là ce matin, pour ne pas en oublier, au Liban ça va très mal, le Hezbollah n'est plus en état de mener une offensive sérieuse vis-à-vis du nord d'Israël. Ils sont quasiment, semble-t-il, KO. En Syrie, on assistait à la chute de Bachar et au remplacement. Alors là, je sais bien qu'il y a des doutes. On doute tous du sérieux de l'homme qui a remplacé Bachar el-Assad, mais l'un dans l'autre, moi je veux faire confiance à ce nouveau arrivant dans la politique syrienne. On va bien voir ce qui va se passer. Le Yémen, ça va quand même de plus en plus mal pour les Houthis. En Irak, Les Hezbollah sont très prudents et nous. Bon, l'axe de la résistance s'est quand même beaucoup affaibli. Reste que l'Iran est encore debout et nous verrons ce qui va se passer dans les jours et dans les semaines qui viennent.
On reste ensemble, bien sûr, et on continue à parler de cette guerre avec quels moyens d'action pour la communauté internationale divisée et Emmanuel Macron changeant, voilà, sa position interpelle. À tout de suite.
Europe 1, il est 13h29.
Europe 1, 13h. Cofidis présente projet numéro 7, le projet qui reste sur le carreau.
Oh non, vous en avez assez des rêves qui se brisent. Avec Cofidis, c'est simple pour financer vos projets. Jusqu'au 30 juin, Cofidis propose un prêt personnel à taux exceptionnel. Et c'est pendant 2 semaines seulement sur cofidis.fr. Cofidis. Le crédit qui fait la différence. Délai légal de rétractation.
À tous ceux qui se retrouvent entre potes quand c'est soir de match, mais faites pas trop de bruit, il y a la petite qui dort à côté.
Et à ceux qui vont devoir apprendre à crier sur l'arbitre, mais en chuchotant.
Mais il y a faute là ! Carton, monsieur l'arbitre, carton, monsieur l'arbitre !
Oh. Intermarché vous offre 80% en avantage carte sur tous les produits de la marque Pampers. Et c'est aussi sur notre appli. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 22 juin, des 30 euros d'achat et dans la limite de 40 euros, modalité sur intermarché.com.
À l'écoute des pros avec Citroën. Comment Citroën répond aux besoins des professionnels au quotidien? Quels services et véhicules pour répondre à leurs attentes? Réponse dans un instant.
Il y a des choses que je n'ai jamais dites à ma famille. J'ai effacé notre cassette de mariage en enregistrant du foot. Ce n'est pas le chien qui a cassé le vase, c'est mon coude. Et quand je dis que j'aime les réunions de famille, c'est surtout pour le dessert.
On peut ne pas tout dire à ses proches. En revanche, leur dire qu'on est donneur d'organes, c'est important. Le don d'organes sauve des vies. Alors rappelez à vos proches que vous êtes donneur. Ceci est un message de l'Agence de la biomédecine, agence relevant du ministère de la Santé.
À l'écoute des pros avec la Banque Postale. Dimitri Perdreau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes menuisier et ébéniste d'art, fondateur des ateliers Perdreau. Alors pourquoi avoir choisi la Banque Postale pour vous accompagner ?
Eh bien, dès la création de mon atelier, la Banque Postale m'a accompagné pour le financement de mes locaux et aussi pour l'achat de mon matériel de précision. Mmh. Et dans notre travail, on privilégie la pérennité éthique et ça m'a paru naturel de choisir une banque citoyenne comme la Banque Postale.
Merci beaucoup, Dimitri.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur labanquepostale.fr/pro.
Noroto. 6 heures de route sans clim, l'enfer.
Heureusement que j'ai pensé aux boissons fraîches.
Bah, vu la chaleur, elles vont pas tenir longtemps.
Mais si ! Avec ma glacière électrique 25 litres Noroto à 59,99€.
59,99€ ? J'y crois pas.
Si, si. La glacière électrique 25 litres Noroto est à 59,99€ avec branchement électrique en voiture ou à la maison. Avec des prix comme ça, pas étonnant qu'on soit la marque préférée des Français. Étude OpinionWay mars 2024. Conditions en centre et sur noroto.fr.
Leclerc, bonjour.
Bonjour. Vous connaissez le proverbe « Quand l'abricot français bien sucré arrive en rayon, on se régale à la maison »
Non.
Normal, je viens de l'inventer, mais c'est vrai.
Ça, je vous crois. Surtout que du 17 au 21 juin, les abricots français sont à 2,79€ le kilo. Et chaque semaine, profitez en plus de 10% de tickets Leclerc sur tous les fruits et légumes à activer sur votre appli Mon Leclerc. Chez Leclerc, le goût du frais, ça se défend tous les jours. Catégorie 1, calibre 45-50 mm, modalité et magasin participant sur www.e.leclerc.
Europe 1, le journal permanent.
13h30 sur Europe 1, toute l'actualité avec vous, c'est Généraux.
Quatrième jour de conflit entre Israël et l'Iran. 11 personnes ont été tuées la nuit dernière dans des frappes iraniennes sur plusieurs villes d'Israël. 24 au total depuis vendredi, depuis le début de l'offensive israélienne en Iran. Il faut à tout prix empêcher l'Iran d'obtenir la bombe nucléaire, assure Sylvain Maillard, le député Ensemble pour la République invité ce matin dans la grande interview CNews Europe 1. Donald Trump, de son côté, appelle l'Iran et Israël à trouver un accord. Le président américain assure qu'il est possible que les États-Unis s'impliquent dans le conflit. La Légion d'honneur à titre posthume pour Maxime Prudhomme et Tanguy Mauzin. Hommage national ce matin aux deux pompiers morts la semaine dernière à Laon, dans l'Aisne, ensevelis sur des décombres alors qu'ils intervenaient lors d'un incendie. La vérité est-elle toujours convaincante ou sommes-nous libres en toutes circonstances? Ce sont quelques-uns des sujets du bac philo ce matin. 530 000 élèves de terminale ont planché pendant 4 heures. Enfin, attention au feu de forêt dans les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse. Ces deux départements du sud-est sont placés en vigilance orange. 9 feux sur 10 sont d'origine humaine et principalement liés à une imprudence.
13h, 14h.
Europe 1, 13h.
La suite d'Europe 1, 13h sur Europe 1 avec vous, Céline Giraud, et vos deux chroniqueurs du jour, le journaliste Yvan Youfol et le chroniqueur politique Jean-Claude Dacier.
Et on continue à parler de ce qui se joue entre Israël et l'Iran actuellement et quels moyens d'action pour la communauté internationale qui semble divisée. Et la posture aussi d'Emmanuel Macron qui interpelle. On va écouter Jean-Noël Barrot qui a rappelé la disponibilité de la France dans la protection d'Israël. Le ministre des Affaires étrangères était sur M6 hier.
Étant donné la nature et la trajectoire des attaques iraniennes contre Israël, les moyens militaires français n'ont pas été mobilisés, mais le président de la République l'a rappelé. En fonction de la présence de nos emprises militaires sur le terrain, nous nous tenons prêts à contribuer à la protection d'Israël.
Ce n'est pas le cas encore.
Nos emprises, nos moyens militaires dans la région, ils ont vocation d'abord à défendre nos intérêts, mais aussi à participer à la défense de nos partenaires.
Voilà, le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot et la posture, je le disais, Jean-Claude Dacier, d'Emmanuel Macron, qui semble parfois déroutante.
Oui,
d'un côté, il appelle à défendre Israël.
Oui.
Si non, on lui demande, et en même temps, il dit,
oui,
voilà,
non, mais
il ne partage pas l'approche israélienne, mais les frappes ont eu des effets recherchés depuis longtemps.
Il a une position très critique à l'égard de la politique de Netanyahou à Gaza. Bon, il n'est pas le seul. Il y a même beaucoup de gens en Israël qui se posent et s'interrogent sur la pérennité et le sérieux de cette politique israélienne à Gaza. C'est un autre débat. Je ne sais pas si M. Macron partagera ce... Je ne sais plus qui a dit que les guerres résolvent parfois des problèmes que les diplomates n'arrivent pas à régler eux-mêmes. Je ne sais pas si c'est...
Peut-être tolérant.
Je ne sais plus qui l'a dit ça. Mais c'est vrai que ça peut être une vérité. On va notamment voir ce qui va se passer au G7, puisque les grands patrons de l'Occident se rencontrent. La première conséquence, c'est qu'il n'y aura pas de communiqué, j'ai vu ça. Il n'y aura pas de communiqué final. La dernière fois, ça s'était mal passé. Il y avait un désaccord qui avait persisté. Et donc, on n'a pas fait de communiqué final cette fois-ci. Il y aura simplement un état des lieux sur chacun des problèmes qui vont être abordés. Et puis, il y a M. Macron, on en parlait il y a une seconde, qui a dû annuler la réunion qui était prévue, je crois, mercredi à New York, où il devait être question, je ne sais pas si c'était quasiment fait, il devait être question avec l'Arabie Saoudite et un certain nombre de pays arabes.
Mais c'est difficile à cerner, ça.
De la reconnaissance d'un État palestinien. C'est difficile à dire. La réunion, pour l'instant, est suspendue. Qu'est-ce qui va se passer à ce sommet du G7? J'espère qu'il ne sera pas complètement inutile, mais enfin, j'ai quelques inquiétudes, quand même.
Yvan Rioufol, sur la posture d'Emmanuel Macron, parfois déroutante.
Elle n'est pas très glorieuse, parce que, en fait, le courage dont fait preuve Israël et le peuple israélien fait ressortir la pusillanimité, en tout cas des dirigeants français et des dirigeants européens, et singulièrement d'Emmanuel Macron lui-même. On voit bien qu'il y a une grande hypocrisie, parce qu'il se félicite, malgré tout, tout le monde peut se féliciter qu'un ennemi, qui est l'ennemi d'Israël, mais l'ennemi du monde occidental, puisse être éliminé. Mais j'entends également Jean-Noël Barrot, son ministre des Affaires étrangères, appeler à la retenue quand il parle à Israël. Je l'ai entendu être incapable de dire qu'il n'y avait pas de génocide à Gaza, alors que malgré tout, on peut quand même soutenir qu'il n'y a pas de génocide à Gaza. Je l'entends dire, encore une fois, qu'il veut expressément qu'il y ait une reconnaissance d'un État palestinien. On est tous d'accord pour qu'il y ait une reconnaissance d'un État palestinien, mais certainement pas dans ce contexte-là où le Hamas est toujours présent, malgré tout, à Gaza. Donc, il y a effectivement une grande ambiguïté, une grande lâcheté, et elle est toujours à mettre en parallèle avec ce nouvel électorat qui est apparu maintenant en France, avec ce que l'on appelle maintenant communément la rue arabe, qui, la rue arabe, se reconnaît dans le palestinisme, et Emmanuel Macron, de la même manière que Mélenchon, est en train de flatter ce nouvel électorat en donnant des gages, et quand il donne des gages, et précisément, il refuse de défendre Israël quand on l'accuse de génocide, il refuse d'aller plus loin dans le soutien militaire pour l'instant, en disant qu'il appelle à la retenue, etc.
Il appelle à la retenue et il dit que le soutien français au droit d'Israël à se défendre n'est pas un soutien inconditionnel et sans limite. C'est ce qu'il
précise. Ça s'appelle une lâcheté déguisée.
En tout cas, il n'a pas la posture que nous avons connue dans le passé, il y a quelques dizaines d'années maintenant, et il a, vis-à-vis de la politique de M. Netanyahou, de vraies réticences, pour ne pas dire davantage. Mais c'est vrai que quand même, quand on compte les morts qu'il y a à Gaza et qu'on voit dans quel état se trouve la bande de Gaza, on peut s'interroger sur la pertinence de la politique de M. Netanyahou. C'est ce que font beaucoup d'Israéliens. On verra bien la suite que politiquement cela donnera. Néanmoins, je reconnais volontiers, je suis d'accord avec mon camarade, c'est que la politique française sous l'égide du président Macron surprend parfois. Je m'en tiendrai là.
Que pensez-vous des interventions de Donald Trump qui appelle à un accord Iran-Israël aujourd'hui,
hein. Autre chose.
Je rappelle qu'il s'était fait la promesse de ne plus engager son pays dans des guerres sans fin.
C'est pas un bâton de guerre. Effectivement, je crois qu'il désire ardemment la paix, mais dans la géopolitique qui se dessine, il faut aussi être toujours replacé dans ce contexte de ce que l'on a appelé la fitna, c'est-à-dire cette guerre intestine entre le sunnisme et le chiisme. Là, c'est l'Iran chiite qui commence à menacer non seulement l'Occident, mais également les pays arabes sunnites. Et vous vous rendez compte qu'il y a une sorte de solidarité qui s'est installée entre le sunnisme et Israël. L'Arabie saoudite, par exemple, se montre comme étant alliée d'Israël. Donc, il y a tout cet environnement qui peut faire penser effectivement que l'Iran est de plus en plus isolé et qu'elle aurait intérêt à négocier. Mais maintenant, effectivement, il y a des péchés d'orgueil qui vont faire que l'Iran, attaqué à ce point, humilié à ce point aux yeux du monde entier, ne risque pas d'accepter, me semble-t-il, un début de négociation. Donc, il va y avoir un mort. Hein, un mort ou du côté israélien.
T'as sans doute raison.
Mais c'est pas tout à fait sûr.
Si vraiment les mollahs se sentent en grave difficulté, ce qui peut arriver dans les heures et les semaines qui viennent, il est possible qu'ils soient obligés de venir à la négo, et cette fois, respecter les conclusions sérieuses. Je reconnais avec toi que c'est un gros point d'interrogation sur la région, on verra bien ce que nous donneront les faits, en tout cas pour le moment, c'est une guerre entre Israël et l'Iran.
Ça reste une guerre entre deux pays.
Et ça fait hélas beaucoup de dégâts, même parmi la population civile.
Oui, bien sûr.
Allez, 13h39, on reste ensemble et dans quelques instants, on va revenir sur cette information Europe 1. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui saisit la justice après une vidéo enregistrée puis publiée par l'imam Noureddin Aoussa qui demande une fatwa à l'encontre de Gabriel Attal. Et puis on reviendra sur les fractures. LFI, le PS, est-ce que le divorce est définitivement acté? On va en parler, à tout de suite.
Bonjour, c'est Dimitri Pavlenko.
7h-9h, Europe 1 matin.
Écoutez, Europe 1, c'est être libre. Libre de s'informer. Cet entrisme qui pourrait faire basculer toute la société française dans la charia.
Nous sommes la patrie de l'esprit critique, des lumières et des droits de l'homme. Donc nous sommes en première ligne et c'est pour ça que nous sommes attaqués.
Cet entrisme instrumentalise beaucoup de nos compatriotes de confession musulmane en leur disant vous êtes des victimes.
Nous ne répondrons pas aux défis que nous lancent les frères musulmans par un nihilisme d'État.
Europe 1, la radio libre.
Europe 1 matin, Dimitri Pavlenko.
À demain matin, 7h-9h sur Europe 1.
Noroto. 6 heures de route sans clim, l'enfer.
Heureusement que j'ai pensé aux boissons fraîches.
Bah vu la chaleur, elles vont pas tenir longtemps.
Mais si, avec ma glacière électrique 25 litres Noroto à 59,99€.
59,99€? J'y crois pas.
Si, si, la glacière électrique 25 litres Noroto est à 59,99€ avec branchement électrique en voiture ou à la maison.
Avec des prix comme ça, pas étonnant qu'on soit la marque préférée des Français. Étude OpinionWay mars 2024. Conditions en centre et sur noroto.fr.
Bouleversé par le décès de mon père, ça a été un soulagement de découvrir qu'il avait pris un contrat de prévoyance obsèques chez Roc Éclair. Tout était financé, organisé. Roc Éclair s'est arrangé pour qu'on ait aucun frais avancé. Ça nous a permis de réaliser la cérémonie qu'il aurait souhaité.
En ce moment, 2 mois offerts pour tout contrat de prévoyance Roc Éclair conclu avant le 30 juin 2025.
Roc Éclair, là pour vous.
Hors prime périodique sur 1 an, distribué par Prévoyance FI. Conditions détaillées en agence et sur roqueclair.com.
C'est parti.
Eh ben j'ai fait le tri dans mes bijoux en or. Je les ai revendus chez Orange Cash. Et voilà, ça finance les moments de plaisir.
Revendez vos bijoux et profitez pleinement de votre été avec Orange Cash.
Achète cash.
Transaction réservée aux majeurs et soumise à réglementation. Paiement par chèque ou virement.
Recruter une personne de plus de 50 ans ? Jamais de la vie.
Moi, c'est la meilleure décision que j'ai prise. J'ai recruté Sophie, 55 ans, pour être vendeuse dans mon magasin. Grâce à son expérience, elle donne des conseils très pertinents et elle sait s'adapter aux besoins des clients.
Comptons sur l'expérience des 50 ans et plus. Recrutement, formation, accompagnement. Rendez-vous sur emploi50plus.gouv.fr.
Ceci est un message du gouvernement.
Dans votre restaurant Trois Brasseurs, la cuisine est généreuse et authentique, inspirée par les recettes traditionnelles de notre terroir. Et chez Trois Brasseurs, la bière que nous servons, c'est la bière que nous fabriquons. Élaborée par nos brasseuses et brasseurs, elle possède un caractère unique et singulier, le nôtre. Trois Brasseurs, le nouvel esprit brasserie. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
13h, 14h,
Europe 1 13h.
Il est 13h42 sur Europe 1 13h. Dernière partie, vous écoutez Céline Géraud, Yvan Yéoufol et Jean-Claude Dacier, Céline.
Et je voulais revenir sur cette information d'Europe 1. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui donc saisit la justice pour signaler une vidéo enregistrée puis publiée par l'imam Noureddine Aoussa. Ce dernier, qui officie à la grande mosquée de Massy, c'est dans l'Essonne, a menacé Gabriel Attal de dicter une fatwa à son encontre. Le prédicateur reproche à l'ancien Premier ministre de vouloir interdire le port du voile pour les mineurs de moins de 15 ans dans l'espace public. Écoutez-le.
Mon propos s'adresse à Gabriel Attal. Vous nous poussez à une fatwa, un avis religieux qui n'a jamais été pris par aucun imam depuis ces 25 dernières années. L'État n'a pas à dicter de règles ou de lois qui concernent la foi et la religion, tout comme les religions n'ont pas à dicter de règles ou de lois à l'État.
Voilà, une illustration, une de plus, de ce qu'est l'entrisme, l'islam radical que dénonce Bruno Retailleau. On le rappelle, ça fait un mois qu'on a le rapport sur les femmes.
Et une démonstration de plus de ce que représente le voile islamique pour ces islamistes-là. Une fatwa, qu'est-ce que c'est? Une fatwa, c'est une menace de mort.
Oui. Condamnation,
c'est une menace
jusqu'à
de mort.
La mort.
Parlez-en à Salman Rushdie, il a failli être assassiné par deux fois. Le philosophe Robert Redeker en France a subi une fatwa, il a dû pendant des années.
Samuel Paty,
naturellement. Enfin, on pourrait faire la liste de tous ceux. Oui, bien sûr, Samuel Paty, de tous ceux qui ont été menacés de mort. Donc, c'est une menace de mort qui est maintenant postée sur des réseaux sociaux par une autorité séparatiste qui veut effectivement imposer une théocratie à une république laïque. Donc, ça ne peut pas marcher. Il va être facile de faire le procès, naturellement, de cet homme-là. Simplement, j'attends avec impatience la réaction de la République elle-même. Parce que si elle ne veut pas se faire humilier à nouveau, j'attends que cet homme-là, s'il a la double nationalité, soit déchu de sa nationalité française. S'il a la double nationalité, qu'il soit renvoyé dans son pays d'origine. Et s'il n'a qu'une nationalité française, ce qui m'étonnerait, qu'il soit en tout cas condamné très sévèrement et à rendre des comptes, bien entendu. Si la République ne dit rien, ce sera effectivement un aveu d'échec, un de plus.
Jean-Claude Dacier, sur cette illustration.
C'est que si j'ai bien entendu, c'est la première fois que je l'écoute, il faudrait que je le réécoute sans doute, mais semble qu'il déclare, lui, non seulement que c'est une fatwa, donc que tu as totalement raison, c'est une menace de mort, clairement, mais il dit qu'au fond, l'État n'a pas à dicter un certain nombre de décisions et de mesures qui concerneraient la religion, quelle qu'elle soit, j'imagine. C'est pas... Mais il faut qu'il quand même.
Mais c'est une illustration de ce que dénonce Bruno Retailleau quand
il y a un entrisme
insidieux.
Depuis 1905, on a séparé l'Église de l'État et chacun fait ce qu'il veut avec l'autorisation simplement pour que les choses soient claires. Et il faut être impitoyable avec les radicaux dans le style et dans le genre et dans les déclarations en poulet de monsieur, comment l'appelez-vous, Aoussa. Il faut que la justice se saisisse de son cas. Je pense que ce sera la situation qu'il va connaître. Et puis, si véritablement il a l'ambition de... Il menace simplement,
Il dit vous nous poussez à ce qu'une fatwa, un avis religieux qui n'a jamais été pris par aucun imam depuis ces 25 dernières années, depuis la loi du 15 mars 2004.
C'est vrai, mais qu'il le fasse. Il ira directement dans la justice et probablement ailleurs, dans un autre lieu. Après le jugement de la dite justice.
Mais ce sont des déclarations qui alimentent ce risque de guerre civile qui est également décrit par beaucoup, dont je fais partie, parce que vraiment cette guerre civile viendrait à opposer en effet une vision théocratique à une vision démocratique.
Il faut que les choses soient claires. La loi de la République, elle est supérieure à toute loi qui puisse venir des milieux catholiques. Ça plaît pas toujours des milieux musulmans, des milieux catholiques, des milieux juifs. C'est la République et la laïcité qui est la règle dans cette République française que nous connaissons.
Et il poursuit l'imam en disant « Vous ne passerez pas par la voie électorale, nous vous battrons, nous les musulmans français et nos amis, nos concitoyens et concitoyennes qui ne sont pas islamophobes, nous vous battrons ». Il invoque donc les millions de musulmans prêts à se mobiliser pour les prochaines échéances électorales.
Quand je vous parle de guerre civile, je vous parle de ça. C'est-à-dire qu'il y a maintenant un séparatisme tel, un communautarisme tel, qu'au cœur de la communauté musulmane, vous avez toute une partie de celle-ci qui est prête à en découdre et trouver prétexte à la moindre...
Mais il y a un taux d'abstention qui est quand même très fort
communauté. Pour passer à l'acte.
C'est ce que dit l'imam. Néanmoins, il doit répondre de ses déclarations.
Bien sûr.
C'est le moins.
13h47, le dernier sujet que je voulais parler, dont je voulais parler avec vous, ça se passe à gauche. Samedi, lors d'un congrès du PS à Nancy, le député socialiste de l'Essonne, Jérôme Guedj, a qualifié Jean-Luc Mélenchon de salopard antisémite, ravivant du même coup la fracture entre socialistes et insoumis. Je vous propose de l'écouter tout de suite, Jérôme Guedj.
Quand je dis à Jean-Luc Mélenchon qu'il n'est pas possible et souhaitable de défendre la revendication de la Palestine, de la mer à la rivière. Je défends la position historique des socialistes, notamment celle de François Mitterrand à la Knesset en 1982, qui est celui de la solution à deux États, de la sécurité d'Israël et de la reconnaissance de l'État palestinien. Et qu'à ce moment-là, je deviens le sioniste génocidaire pour Jean-Luc Mélenchon et les siens, et que j'ai une meurtrissure terrible à dire devant ce congrès, que pour la première fois de ma vie, j'ai dû dire de l'homme que j'ai aimé profondément qu'il est devenu un salopard antisémite, avec des propos qui sont pour nous absolument insupportables.
Voilà, Jean-Luc Mélenchon est donc un salopard antisémite pour Jérôme Guedj. Écoutez Manuel Bompard, coordinateur de LFI et député des Bouches-du-Rhône, qui demande au premier secrétaire socialiste fraîchement élu, Olivier Faure, de présenter des excuses à LFI après ses propos. Il était sur BFM ce matin.
J'appelle solennellement, au nom de la France insoumise, Olivier Faure, à présenter des excuses publiques à la France insoumise, à l'ensemble de ses militantes et de ses militants qui sont attaqués de manière inacceptable à l'intérieur du Congrès socialiste. Comment vous voulez imaginer qu'il soit possible de travailler en commun avec une formation politique qui, dans son congrès, insulte le dirigeant ou un dirigeant politique d'une autre formation politique de salopard? C'est totalement impossible.
Oui, et les commentaires de Sylvain Maillard, député EPR de Paris, qui lui a défendu Jérôme Guedj, c'était ce matin. Il était au micro de Romain Desarbres sur CNews Europe 1.
Il est courageux, Jérôme Guedj, parce que non seulement il a travaillé, lui, longtemps avec, aux côtés de Jean-Luc Mélenchon, il l'a connu au moment où pour lui, la République était plus importante que le communautarisme. C'était il y a quelques années. Et Jean-Luc Mélenchon en a fait une cible en le traitant de sioniste, en le ciblant. Et surtout, aux dernières élections, en faisant en sorte qu'il ne soit pas candidat sur le rassemblement avec LFI. Et donc, Jérôme Guedj dit tout simplement la vérité, sa vérité, qui, je crois, malheureusement, est la vérité. C'est-à-dire qu'une partie des cadres de LFI ont basculé dans un antisémitisme. Je dis une partie des cadres, et je crois que Jean-Luc Mélenchon, très clairement, a basculé dans un antisémitisme.
Jean-Claude Dacier, est-ce qu'il a basculé dans un antisémitisme?
Écoutez, je n'irai pas jusque-là, en ce qui me concerne. Je comprends la position de Guedj, mais enfin quand même, salopard antisémite, c'est...
Ah, il dit que les termes lui ont échappé.
Oui, enfin, hélas.
Que ce n'était pas écrit.
Ça doit correspondre à une bonne partie de ce qu'il pense. Je vais vous dire, moi ça ne m'intéresse pas trop d'ergoter sur est-ce qu'il a fait exprès, l'a-t-il pas fait exprès, est-ce que ça lui est sorti plus vite qu'il n'aurait souhaité. C'est possible. Mon constat, et c'est ce qui me paraît le plus important pour l'avenir, c'est qu'il y a bien en effet deux PS. Il y a les PS qui sont, alors on assistera probablement pour les municipales de l'année prochaine, au mois de mars, à quelques accords locaux ici ou là. Mais je pense très sincèrement, je peux me tromper, j'espère ne pas me tromper, que une ressucée, une rebelote... de l'accord entre les socialistes tels qu'on les a vus se débattre au congrès de Nancy et M. Mélenchon et sa France insoumise, il me semble que plus que jamais, comme le disait Valls, ces deux gauches sont donc absolument irréconciliables et qu'il n'y aura pas d'accord. L'union de la gauche est morte.
Et donc pour vous, la rupture est inéluctable et pour vous, Yvan Rieufol?
Oui, la rupture est... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la France insoumise défend une cause qui est devenue réticente à tout le monde. C'est-à-dire qu'en s'alliant à la cause défensive de l'Iran, donc c'est-à-dire en s'alliant à la défense d'un régime totalitaire, encore une fois, d'un régime dictatorial, d'un régime théocratique, d'un régime qui veut l'éradication du monde libre, et en ne voyant pas qu'en s'alliant à ce monde-là, l'extrême-gauche replonge dans ces démons qui lui avaient fait cautionner tous les régimes totalitaires de jadis, en partant du communisme jusqu'au maoïsme, jusqu'au wokisme et maintenant jusqu'à l'islamisme, on voit bien effectivement que cette dérive-là est devenue inexplicable. Elle ne s'explique que par la flatterie de ce nouveau communautarisme musulman qui est présumé, en plus, sans qu'on en soit convaincu, présumé être réceptif aux exigences islamistes du Hamas, etc. Donc, cette gauche-là s'est perdue, mais cette gauche-là s'est perdue irrémédiablement parce qu'elle continuera contrairement à ce que vous dites, elle continuera, du moins, dans
sa partie. Mais vous pensez qu'elle peut continuer à exister, même sans...
Dans sa partie la plus centrale, elle continuera à exister à travers des alliances avec LFI, puisque cette gauche-là parle comme LFI. Cette gauche qui n'ose pas critiquer le Hamas, qui dit effectivement que Israël est la puissance déstabilisatrice, etc. Donc, effectivement, Jérôme Guedj est parfaitement courageux, je l'applaudis.
Jérôme Guedj dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas.
Non, mais ce n'est pas unanime sur la position.
Je ne sais pas.
Je ne suis pas un spécialiste à ce point des intestins du PS,
mais je vois quand
il y a deux lignes, à l'évidence. Il y a deux lignes, il y a même deux regards sur l'évolution de la société.
J'observe que le secrétaire du Parti Socialiste s'est fait réélire et donc.
À ce stade, il ne sera excusé officiellement. Il porte une ligne qui n'est pas la ligne.
Non, mais il n'est pas, M. Faure n'est pas pour une reconduite de l'accord avec le LFI.
Écoutez, il n'est pas pour instrumentaliser ce qui se passe.
J'ai entendu Faure, à moins que je ne me trompe, dire qu'il y avait un génocide à Gaza, reprendre tous les éléments de langage.
Ça, c'est bon.
Oui, c'est bon.
D'accord, si vous faites l'amalgame,
ce sont des éléments de langage qui flattent un antisémitisme. Je ne suis pas de ceux qui diront non plus que Mélenchon est, quoi qu'il arrive, antisémite. Je dis simplement que ses prises de position et ces éléments de langage flattent un antisémitisme. Il le sait bien.
Tout ça pour gagner aux prochaines municipales, voire à la prochaine présidentielle, quelques dizaines de milliers de voix musulmanes. Je ne suis pas sûr qu'il les ait.
Mais est-ce que
pour moi, il y a deux PS, je l'ai dit en débutant, il y a deux PS, il y a deux lignes qui s'affrontent et qui font que, au jour d'aujourd'hui, imaginer qu'un nouvel accord soit possible véritablement avec la France insoumise me paraît hors du domaine du possible.
Dans l'intérêt du pays.
Parce que est-ce qu'ils peuvent exister en quittant effectivement le vaisseau amiral avec quelle idée, avec quel programme?
Un PS n'a plus de sens,
sauf à devenir un centrisme, bien sûr.
Oui, c'est oui, mais ce qu'ils sont, mais ce oui. qu'ils sont en réalité. Oui, ils sont plus radicaux, mais ils sont pas radicaux.
Mais je ne peux pas vous dire quelle est effectivement la proportion entre les PS centristes et les PS radicaux. Mais il me semble que ce sont les PS radicaux pour l'instant.
C'est la crise au PS, le moins qu'on puisse dire, c'est que ce congrès de Nancy n'a pas permis une clarification incontestable future ligne du PS.
Il a élu Faure qui ne se...
Quelle est la future ligne du PS, justement?
J'en sais rien, non plus,
désarmés du, je le dis, du vaisseau LFI.
Mais eux non plus ne la connaissent pas.
Là, tout le monde dit, oui, ils vont revenir finalement, ils se chamaillent.
Mais c'est pas de la chamaillerie, c'est pas de la provocation, c'est dans la déception amoureuse, est-ce qu'on est dans la déception amoureuse, et est-ce que la réconciliation est encore possible selon vous? Non mais ce que l'on entend maintenant de LFI et du Parti Socialiste, de ce Parti Socialiste qu'il soutient, est tout à fait intolérable dans l'aveuglement qu'il porte à ce qui est devenu maintenant un totalitarisme. Enfin, il faut quand même revenir à des fondamentaux. Encore une fois, je ne comprends pas que cette dérive de Jean-Luc Mélenchon, qui auparavant, on l'avait connu, mais il y a 10 ou 20 ans, comme étant un républicain malgré tout honorable, et maintenant est en train de vendre son âme au diable, et de les vendre en l'occurrence aux mollahs. On ne peut pas défendre le régime des mollahs, ce n'est pas possible. Si on défend le régime des mollahs, on défend effectivement cette tyrannie des mollahs et on défend un régime oppressant.
Inacceptable, en effet. Vous avez raison.
Et à ce stade, aucune excuse n'est venue d'Olivier Faure, qui, je le rappelle, a été élu d'une courte tête.
C'est bien pour ça qu'il y a deux PS et qu'ils ont un vrai problème. Et je suis pas sûr que la solution à leur problème, ce sera une position claire vis-à-vis de la France insoumise. Au contraire.
Merci Jean-Claude Dacier. Merci Yvan Rioffol. On ne s'est pas ennuyé une fois encore. Et demain, on y retourne. On se retrouve dès 13h pour de nouvelles aventures. Merci à tous et merci Géraldine.
Merci Céline. C'était Céline Géraud sur Europe 1. Et cette semaine, votre radio préférée réunit la grande famille Europe 1, animateurs, journalistes et vous, bien sûr, chers auditeurs. Tous les jours, tout au long de la journée, vous allez découvrir comment la rédaction travaille et prépare l'information libre que vous entendez chaque jour. Vous allez aussi assister aux émissions comme aujourd'hui. Thomas et Nathalie qui ont découvert les coulisses d'Europe 1 Matin et de Culture Média. Cette semaine exceptionnelle est l'occasion aussi de célébrer les grands succès d'Europe 1 comme les audiences. Et oui, en 2 ans, Europe 1 a gagné plus de 700 000 auditeurs. Alors bienvenue à vous, chers nouveaux auditeurs. Et restez bien avec nous. Dans un instant, c'est Christophe Fondat, 14h15, de la Traconte sur Europe 1.
À l'écoute des pros avec Citroën. Entre évolution des usages et nouveaux enjeux de mobilité, le choix d'un utilitaire devient plus stratégique. Sébastien Caron, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de Stellantis Pro One France. Alors comment Citroën répond aux nouvelles attentes des professionnels ?
Nous sommes aux côtés des pros depuis plus de 100 ans. Aujourd'hui, Citroën propose une gamme 100% électrique de ses trois sociétés van à jumper, en passant par le Berlingo van ou le Jumpy.
Et ces véhicules s'adaptent vraiment aux différents besoins des pros ?
Oui, avec le programme Custom Fit, Citroën personnalise chaque utilitaire selon l'usage. Aménagement, équipement, tout est pensé pour leurs besoins métiers. Et pour se lancer sereinement, nos utilitaires électriques sont éligibles à la prime CEE,
ouais,
avec la possibilité de les tester jusqu'à 30 jours grâce à l'offre L'essayer, c'est l'adopter.
Très intéressant. Et côté service ?
Côté service, chez Citroën, on offre un accompagnement de proximité qui s'appuie sur notre réseau de Professional Center labellisé,
ouais,
mais aussi sur des solutions de financement adaptées aux besoins des pros.
Très bien. Et pour ceux qui veulent se renseigner,
Rendez-vous sur citroën.fr.
Merci.
Voir conditions sur site.
Salut, c'est BYD, le leader mondial et expert du véhicule électrique et hybride. BYD Dolphin Surf, la nouvelle citadine 100% électrique à partir de 19 990 euros. Du 11 au 30 juin, viens l'essayer et tente de la gagner. Voir conditions et règlements complets sur le site byd.com/fr. Jeu gratuit sans obligation d'achat. Au quotidien, prenez les transports en commun.
L'héritage Goldman revient. L'aventure continue pour un nouveau voyage musical. Un show explosif pour redécouvrir les tubes cultes de Jean-Jacques Goldman et ceux qu'il a écrits pour les grandes voix de la chanson française. L'Héritage Goldman 2, une tournée événement à ne pas manquer à partir du 17 septembre avec Europe 1.
Alors comme je vous le disais, madame, avec la rénovation énergétique à 1 euro, l'État prend tout en charge.
Je sais pas, ça m'embête de décider tout de suite.
Mais alors je comprends, le problème c'est que si vous signez pas maintenant, vous pourrez plus en bénéficier et ça va vous...
Non, n'insistez pas, je préfère un autre avis d'abord.
La réno énergétique à 1 euro, ça n'existe pas. Les arnaques, si. Avant de dire oui, demandez un autre avis. Contactez votre conseiller France Rénov sur france-rénov.gouv.fr, le service public de la rénovation de l'habitat.
Ford Pro.
Allez patron, j'y vais.
Attendez.
Oui.
Vous êtes branché, Bénodier.
Ah bon, vous trouvez ?
Mais non.
C'est vrai que je travaille mon style.
Non, le câble, c'est électrique. C'est le nouveau e-Transit Custom, Bénodier.
D'accord, donc c'est nouveau.
Bah, oui.
Pendant les jours plus productifs Ford Pro, profitez de jusqu'à 4 696 euros sur le nouveau e-Transit Custom 100% électrique avec la prime CEE.
Ford